Vous êtes sur RFL 101. Tout de suite, RFL reportage.
Bonjour à tous, je suis à la Cépente et aujourd'hui nous allons aborder le thème les bassines ou les retenues d'eau. Je suis en présence de Pierre Richard, président de la Cépente, bonjour. Et ainsi que de Marion, chargée de mission agronomique eau et biodiversité. Bonjour Marion.
Bonjour.
Vous allez bien ? La France connaît cet été une importante sécheresse qui révèle des problèmes de gestion de la ressource en eau ainsi que des risques de conflits d'intérêts. Qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Expliquez-nous.
C'est que c'est une ressource limitée qu'on n'a pas en abondance, surtout dans ces problèmes de sécheresse, et qu'elle est vouée à de multiples usages. Qu'on voit déjà quand il y a un problème de manque qu'il faut se partager l'eau pour ces différents usages et arriver à prioriser qu'est-ce qui est plus important de qu'est-ce qui est peut-être superflu. Et donc ça va s'accentuer, d'autant plus qu'on va manquer d'eau dans les années futures et que certains usages ne font qu'augmenter chaque année.
L'eau, ces conflits d'intérêts dont on parlait, c'est la possibilité d'utiliser de façon privative une grande partie de la ressource en eau pour des irrigations estivales. C'est ce qui nous choque particulièrement parce que cela se fait au profit d'abord d'un petit nombre d'agriculteurs au détriment des autres et ça se fait également au détriment de l'ensemble des usages de l'eau, y compris pour la nature, y compris pour les hommes, y compris pour l'alimentation humaine et animale. Et donc, il est nécessaire à notre avis que l'on recherche d'autres solutions que la création de retenues d'eau, donc ces bassines ou ces retenues collinaires dans quelques cas, qui stockent de l'eau qui est prélevée donc soit dans la nappe phréatique, soit qui découle d'un ruisseau qui a été barré, et qu'on évite de privatiser cette eau, mais qui est un bien commun et qui doit être utilisé à tout le monde. Sachant que notamment si on prélève de l'eau de façon importante en hiver quand il y a quelques précipitations, on prive l'ensemble du réseau hydrographique, les nappes et l'ensemble du réseau hydrographique, d'une partie de la ressource, et on accentue l'effet de la sécheresse en été. Donc c'est quelque chose, effectivement, sur lequel on doit s'interroger pour savoir s'il ne faut pas bannir, alors que l'Agence de l'eau Loire-Bretagne envisageait d'apporter des soutiens financiers à certaines de ces opérations.
Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, est favorable à l'autorisation des nouvelles retenues afin de pallier aux effets du changement climatique. Vous, la Cépente, vous êtes en désaccord avec la création de ces dites bassines. Pour quelles raisons ?
On est en désaccord parce que effectivement il s'agit d'un usage de l'eau qui nous paraît abusif, puisqu'il s'agit de prélèvement d'eau, d'un stockage d'eau pour une ou quelques exploitations agricoles, et que ce stockage fait que nous n'avons plus d'eau suffisamment pour les autres usages. Et d'autre part, donc ça empêche la profession agricole de travailler sur la suppression de l'irrigation et la recherche de cultures moins gourmandes en eau en été.
En vous lisant, j'ai vu aussi c'est la nécessité de respecter le cycle de l'eau. Effectivement, puisque que ce soit les eaux pluviales, les eaux qui viennent d'un cours d'eau, s'infiltrent à travers la terre pour arriver dans les nappes phréatiques. Finalement, là, ça serait casser ce cycle de l'eau pour alimenter après les populations.
Tout à fait, oui. Donc ce cycle de l'eau, il est important de le respecter, que l'eau qui tombe en hiver donc s'infiltre dans les nappes et peu à peu donc permet d'alimenter l'ensemble du réseau des rivières. D'autre part, donc permet de réalimenter en période de basse eau en été, permet de continuer à alimenter l'ensemble du réseau des cours d'eau. Si on prélève trop d'eau, on n'aura plus d'irrigation, on n'aura plus d'alimentation en eau plutôt de l'ensemble de notre réseau de ruisseaux et de rivières. On voit bien actuellement que nos collègues de la Fédération de pêche sont très attentifs à cette situation d'étiage sévère que connaissent beaucoup de nos cours d'eau, qui sont dus en partie aux prélèvements qui sont effectués pour autre chose, notamment pour l'irrigation.
Il y a un autre problème qui est très important à soulever et que l'on ne sait pas, et pourtant qui semble très logique, c'est qu'en fait ces bassines donnent lieu à un gaspillage dû à l'évaporation. Marion.
L'évaporation est très importante et déjà ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'on a prélevé de l'eau à un moment où l'on pensait qu'il y avait un excédent d'eau, donc en hiver, alors qu'en fait on a prélevé de l'eau à un moment où le milieu en a besoin pour se recharger, donc on n'a pas prélevé un excédent, on a déjà entamé la ressource. Et ensuite, une fois qu'elles sont stockées, c'est de grandes surfaces et de grandes étendues d'eau donnent lieu à énormément d'évaporation. Par rapport à un milieu qui est la rivière, qui va moins évaporer qu'à une surface moins importante, il y a forcément des pertes qui vont être dues et qui vont être perdues pour tous les usages. Donc on ne pourra pas les utiliser pour l'évaporation. C'est l'eau qui ne serait plus dans la rivière pour alimenter le milieu aquatique. Et c'est aussi perdu pour les usages tels que notre consommation ou l'eau potable.
Mais que ce soit les mares, etc., nous, on ne se rend pas compte qu'effectivement, il y a une part très importante d'évaporation. Et qui, je rappelle, qui semble pourtant très, très logique. Je vous propose une pause musicale. Avec Monsieur Pierre Richard et puis Marion Bernard à la Sépante à propos des bassines ou des retenues d'eau. Une autre chose que vous vouliez dire par rapport, alors là je vais rappeler, c'est qu'en fait vous battez justement pour l'appropriation privative de cette eau, puisque c'est un bien commun. Et là, vous parliez tout à l'heure des agriculteurs, la répartition par rapport aux agriculteurs. Marion, peut-être ?
Oui, alors donc en fait, c'est un bien commun, l'eau, comme on l'a rappelé, qui va être utilisée via ces bassines uniquement par des agriculteurs irrigants. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que l'irrigation en Indre-et-Loire, ça représente 3% de la surface agricole. Donc c'est de l'argent public qui va être utilisé pour créer des bassines qui vont finalement profiter qu'à 3% de la surface agricole d'Indre-et-Loire. Donc c'est un peu une grande partie de privatisation. Et si on regarde les financements alloués à ces bassines, il y a des financements prévus jusqu'en 2021 à hauteur de 80 millions d'euros. Donc si, pour comparer, on regarde les financements prévus pour aider à la conversion en agriculture biologique, donc des agricultures plus favorables à l'environnement, qui respectent le cycle de l'eau, on est à hauteur de 3 millions d'euros de subventions. Donc il y a un réel déséquilibre entre subventionner une agriculture qui détériore les sols, qui utilise de l'eau massivement à une période qui n'est pas propice, et une agriculture plus favorable à l'environnement.
Je partage tout à fait donc le propos de Marion, et donc j'indiquerai aussi que c'est un problème de politique publique vu dans un certain nombre de régions françaises et notamment dans les régions voisines, en Poitou-Charentes, enfin l'ex-Poitou-Charentes, qui est en Nouvelle-Aquitaine, la situation devenir extrêmement tendue. On a dû recourir aux tribunaux pour faire annuler un certain nombre d'autorisations de création de bassines, parce qu'effectivement tout cela se fait à la fois au détriment de l'ensemble de la collectivité, au détriment de la nature et des cours d'eau, et au détriment également des agriculteurs non irrigants, notamment les éleveurs, qui se retrouvent avec des prairies extrêmement sèches. Il y a des restrictions de pompage où le niveau des nappes phréatiques a beaucoup baissé et leur situation est tendue. Donc je pense que la majorité des agriculteurs sont pénalisés par ces mesures qui concernent quelques irrigants dans un secteur donné. Je pense que la vigilance doit être très très grande. Une nouvelle définition des politiques publiques dans le domaine de la gestion de l'eau est attendue de notre part, notamment de la part de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui est le fil de financeur auquel faisait allusion Marion.
Pour terminer cette émission sur les bassines et sur ces retenues d'eau, vos observations, Pierre et Marion, bien sûr, on peut dire que ces bassines, ça va rendre service dans un temps très proche aux agriculteurs. Ça peut rendre service. Au moyen terme, il y a peut-être une remarque judicieuse, et justement sur la façon dont les agriculteurs vont continuer à consommer à outrance cette eau.
Je pense que là, il faut qu'il y ait une réflexion au sein de la profession agricole sur la modification des usages et notamment s'interroger sur le fait que les cultures du maïs, qui est une de printemps, qui est extrêmement gourmande, une plante extrêmement gourmande en eau, l'orge également de printemps, et dans le même cas, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des cultures de substitution qui soient beaucoup moins consommatrices en eau et qui puissent rendre les mêmes services, notamment pour l'alimentation du bétail. Nous avons là besoin d'une réflexion au sein de la profession qui permette d'avancer et de faire en sorte qu'on n'ait plus besoin d'irriguer aussi massivement. On devrait pouvoir trouver, dans tous les cas, des substituts aux cultures de printemps qui sont extrêmement gourmandes en eau en été. Ces nouvelles cultures, enfin, ou ces modifications de façon culturelle doivent s'accompagner d'une réflexion et d'action, surtout, sur l'aménagement du territoire agricole. Le retour aux haies est quelque chose que on souligne beaucoup comme étant nécessaire parce que ça permet de ramener de la fraîcheur, de l'ombre dans la campagne. Ça permet d'avoir également, donc, des abris pour la biodiversité. Le maintien des zones humides et le maintien notamment des mares qui sont souvent menacées aujourd'hui par de destruction parce que leur usage qui était notamment pour que les troupeaux puissent s'abreuver en été tend à diminuer avec le recul de l'élevage. Mais il s'agit de lieux de vie, de lieux de biodiversité. Nous incitons très vivement les maires à surveiller à travers l'élaboration des PLU la localisation des mares de manière à ce qu'elles soient bien identifiées et qu'on ne puisse pas les supprimer sans demander d'autorisation préalable, par exemple, auprès du maire ou auprès de la DDT. Donc il faut réaménager l'espace rural en réintroduisant la haie, quelquefois l'arbre de plein champ quand c'est possible, et faire en sorte que la campagne soit plus fraîche, plus accueillante à la biodiversité et permette de respecter tous les usages, quels que soient aussi bien les usages naturels que les usages agricoles.
Nous allons être obligés de passer par là quelque part, puisque de plus en plus, on prévoit dans les années qui vont venir de plus en plus de sécheresse avec des records de température. Et forcément, maintenant, on regarde que l'on met de plus en plus d'arbres, de jardins, même à l'intérieur des villes, etc., pour apporter cette fraîcheur. Marion, vous êtes chargée de mission à la Cépente en eau. Je vous laisse le mot de la fin.
Je voulais reparler des zones humides. En fait, c'est des zones naturelles qui vont rendre énormément de services, empêcher les crues ou du moins les réduire et ralentir le cours de l'eau en hiver et en été redonner de l'eau au milieu et notamment aux rivières. Du coup, essayer de limiter l'impact de la sécheresse. Donc, c'est des zones qu'on a énormément comblées ou détruites au cours des années. qui sont importantes de restaurer, de remettre en action, en fait, sur tout le territoire, surtout qu'elles vont remplir un rôle pour la qualité de l'eau, pour de la dénitrification, donc pour éviter d'avoir trop de nitrates dans l'eau, qui vont remplir un rôle pour la biodiversité, c'est des zones d'accueil favorables à la biodiversité. Toutes ces zones-là qu'on a détruites, il est vraiment important de les restaurer. On peut parler aussi des prairies humides. En termes de sécheresse actuellement, beaucoup de prairies pour l'élevage sont sèches. Les prairies humides au bord des cours d'eau qu'on a longtemps drainées en agriculture, maintenant sont les seules à être un petit peu vertes et à pouvoir être pâturables. Donc toutes ces zones humides qui tendaient à être un peu un désavantage tel qu'on le concevait à l'époque, sont maintenant à garder, à restaurer en été pour avoir ce maintien d'une agriculture ou même du pâturage et des zones un peu vertes et fraîches. Pour revenir sur les financements alloués aux bassines, j'ai fait un petit calcul rapide à l'aide de mon collègue qui travaille sur les zones humides. Avec 80 millions d'euros de financement, on peut restaurer 3000 km de haies et 16 000 hectares de zones humides. On peut restaurer pas mal de choses qui rendent service à l'agriculture, à la biodiversité et à nous-mêmes.
C'est réjouissant en même temps, mais en même temps c'est effrayant quand on sait que nos élus ne vont pas dans ce sens-là, alors que ça semble tellement logique, simple et logique en même temps. Monsieur Pierre Richard, je vous dis à une autre fois pour un autre sujet, au revoir. Et au revoir Marion, merci pour ces instants. Au revoir à tous.
RFL Reportage, c'est fini pour aujourd'hui. Thank you.